Raymond Richard au micro, Guy est à la technique et nous nous retrouvons pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Et dans cette émission, et pour aujourd'hui, je reçois Madame Cassaigne qui va nous parler d'un élevage de chèvres angora. Bonjour Madame, merci d'être venue à Radio Grand Ciel pour nous parler de cette activité que beaucoup ne connaissent pas. En tout cas, j'espère que cela intéressera beaucoup nos auditeurs. En tout cas, moi-même, j'ai été très intéressée. Voilà.
Bonjour.
Pour ça, je vous ai invité.
Et merci de m'accueillir.
Alors, eh bien, des chèvres angora. Moi, je voudrais bien que vous nous parliez, parce que les chèvres, on voit très bien ce que c'est. Angora, souvent, on associe à lapin angora. Et puis, ces chèvres, c'est vrai qu'elles sont très belles, très jolies. Et puis qu'elles font des produits très doux. Alors, parlons un peu de ces bêtes.
Du coup, la chèvre angora, en fait, historiquement, elle vient du Tibet. Elle date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et elle a été importée de la région d'Ankara, en Turquie. C'est de là que vient son nom, en fait. C'est pour ça qu'elle s'appelle angora. Et elle était réservée aux vêtements du sultan. Il n'y avait que le sultan qui pouvait porter la laine mohair. Et en France, elle a été importée. Et au Moyen-Âge, à cause de la famine, ils ont été obligés de manger les chèvres. Donc ça a été la mort de la chèvre angora. Et en fait, dans les années 80, il y a des éleveurs de chèvres qui se sont intéressés à cette race et qui en ont fait venir. Il y a deux pôles dans le monde pour la chèvre angora, qui est l'Afrique du Sud et le Texas. Du coup, ils sont fait venir des animaux de ces deux pays pour créer un troupeau. Et aujourd'hui, grâce à un travail de sélection génétique important, le mohair français est le mohair le plus fin du monde.
Alors, ce sont des éleveurs français qui se sont dit « c'est intéressant, cette chèvre, parce qu'elle produit aussi de la laine ».
Voilà, et c'était l'originalité de ces chèvres. Bon, déjà, il y a la beauté de la chèvre et cette originalité de produire de la laine. Et surtout, une laine qui avait un grand intérêt par rapport à la laine de mouton, puisque ça ne pique pas. Et c'est 2,5 fois plus chaud que de la laine de mouton. Donc voilà, c'était la volonté de pouvoir produire cette laine de qualité et de la proposer du coup à tout le monde.
Et est-ce que comme les chèvres, elles produisent aussi du lait? Enfin bon, et vous travaillez le lait aussi, comme dans un élevage, parce que finalement dans la région, on connaît surtout des élevages de chèvres pour fabriquer des fromages de chèvres.
Oui, alors les chèvres angora produisent du lait, mais seulement pour nourrir leurs chevreaux. Elles ne sont pas du tout des bonnes productrices, donc on les laisse pour les chevreaux. Elles mettent toute leur énergie à faire du poil, donc voilà, elles n'ont juste la quantité pour leurs chevreaux et c'est tout.
Oui, c'est donc tout à fait, c'est complètement naturel, écologique même, là, ça, du coup, de dire on va utiliser le lait des chèvres pour l'élevage des chevreaux, je trouve que c'est quand même pas mal.
C'est dans la lignée de la vie.
Dans la lignée de la vie, voilà. Alors, elles demandent des soins particuliers, ces chèvres?
Alors, elles demandent surtout des tontes. C'est la contrainte de la chèvre angora. Forcément, il faut récupérer la laine. En fait, ça a une pousse très rapide, puisque ça pousse de 3 cm par mois. Donc, cela va très vite. Donc, on les tonte 2 fois par an.
Ça fait 36 cm par an, oui, ça fait...
Oui, voilà. Du coup, on les tonte 2 fois par an. Il faut, pour pouvoir être filée, une mèche doit faire plus de 5 cm. Sinon, elle ne passe pas à la filature. Donc, quand on les tonte, comme c'est 2 fois par an, en gros, on a une quinzaine de centimètres de longueur. Et on les tonte une fois en février, une fois en août. Et en fait, c'est la tonte de février qui détermine tout, parce qu'il faut qu'elle soit tondue 1 mois avant la mise bas. Sinon, pour la mise bas, en fait, elles ont trop de laine et les petits ne trouvent pas les mamelles. Donc, il faut que ce soit tondu 1 mois avant, pas après, sinon il y a un risque d'avortement. Et du coup, comme ça, 1 mois après, elles sont toutes propres pour la mise bas et les petits trouvent les mamelles sans aucun souci.
Donc, c'est très précis.
Oui, c'est très précis. C'est pour ça que beaucoup de gens qui viennent visiter la ferme nous disent « Mais pourquoi vous les tondez en février alors qu'il fait très froid ?»
Oui, ça, parce que ce que je pensais, je me dis « Il fait froid. »
Voilà, il fait froid, elles n'ont plus de laine sur le dos. Alors, quand même, quand il fait très froid, nous avons pitié, on leur met des lampes chauffantes. Et sinon, comme ça pousse très vite, en fait, au bout d'une semaine, elles ont de nouveau de la laine sur le dos et elles pâtissent
donc
pas du froid.
Voilà. Donc, de nouveau, elles ne pâtissent pas du froid.
Ça ne pose pas de problème. Et dans les soins, du coup, comme elles font de la laine, elles font aussi beaucoup d'onglons, donc c'est les sabots. Et donc, on est obligé de les parer. Donc, le parage, en fait, c'est le fait de leur couper les sabots qui grandissent très vite. Surtout que dans la région de Rouez, on n'a pas beaucoup de cailloux. C'est une terre qui est un peu spongieuse, donc elles ne sucent pas les sabots. Donc, il faut 4 fois par an, en fait, faire les ongles de toutes
les chèvres
voilà, pour leur établir qu'elles aient des bons aplombs et qu'elles puissent marcher correctement.
D'accord. Et alors, ce sont des chèvres qui broutent de l'herbe ? Ce sont des chèvres qu'on nourrit comment ?
Alors, en fait, il y a deux périodes dans l'année. Du mois de novembre au mois de mars, elles sont à l'intérieur. Donc, quand elles sont à l'intérieur, elles mangent du foin, de l'orge. Et pour les gestantes, elles mangent de la luzerne déshydratée et de la luzerne en fourrage. Par contre, à partir du mois de mars, elles commencent à sortir. Elles sont essentiellement à l'herbe, elles ne mangent que de l'herbe. Donc on fait une transition alimentaire, parce que la chèvre en général est un peu délicate. Donc le premier jour, elles ont droit à 15 minutes dehors, le deuxième une demi-heure, après trois quarts d'heure, jusqu'à arriver une journée complète.
Une nourriture complètement sèche à une nourriture qui est dehors, qui est
voilà, c'est pour
humide.
Ça qu'on fait une transition très délicate, parce que voilà, le tout sec et le tout humide, sinon ça déclenche des coliques et il y a un risque pour la bête. Donc voilà, depuis une semaine, là, elles commencent à sortir et elles sont très contentes parce qu'elles commencent à trépigner. Quand elles voient que les jours rallongent, ça trépigne dans la grange.
Ah bon, elles se rendent... Oui, oui, ce cycle du jour influence la vie des chèvres ?
Oui, elles s'en rendent compte parce qu'en plein hiver, elles ne demandent absolument pas à sortir. Et là, on sent quand les jours rallongent et qu'ils commencent à faire un peu plus doux, elles trépignent, elles attendent à la barrière et on voit très bien qu'elles ont envie de sortir.
Voilà, les chèvres ont envie de sortir. Alors, et les petits ? Parce qu'effectivement, vous parliez de la mise bas, enfin de la nécessité de tondre les chèvres pour faciliter la mise bas. Donc dans un troupeau, dites-moi un peu quel équilibre il y a entre les garçons et les filles, si j'ose dire.
Eh bien, il y a un très gros déséquilibre puisqu'il y a un mâle pour... alors nous, on a une quinzaine de femelles. Cette année, on a mis 5 femelles à la reproduction puisqu'en fait, les 10 autres sont ses filles. Donc, on évite la consanguinité.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et comment vous faites ? Parce qu'après, il faut...
À l'automne prochain, on va faire entrer un nouveau mâle pour changer le sang. Et en fait, on va... Alors, il y a plusieurs stratégies. Soit on vend notre bouc pour en racheter un autre. Mais nous, on l'aime énormément parce qu'il est très câlin et pas du tout agressif, ce qui est précieux pour un bouc. On n'a jamais peur de rentrer dans l'enclos ni de laisser rentrer des visiteurs. Du coup, on essaye de trouver un éleveur qui veut bien nous l'échanger et pour pouvoir le récupérer après. Donc comme ça, à l'automne prochain, on fera rentrer un sang neuf.
Pour pouvoir le récupérer après.
Voilà, et on récupérera notre bouc qu'on aime bien.
Lorsque le cycle des chèvres aura été...
Quand la saillie sera terminée. Parce que les chèvres sont en chaleur à partir du mois d'août. Et elles sont en chaleur en gros de août à mars. Et en fait, on sépare le bouc pour ne pas avoir des naissances trop tôt. Comme il y a 5 mois de gestation chez la chèvre, si on laissait saillir en août, elle naîtrait vraiment en plein milieu de l'hiver. Donc en fait, on met le bouc à partir du 15 octobre. Comme ça, ça fait 5 mois après, on tombe le 15 mars, et là où les jours sont plus doux et que le chevreau a plus... La vie lui sera plus facile puisqu'il fera plus chaud.
Et là, l'insémination des chèvres se fait naturellement avec la présence du bouc dans le troupeau.
Voilà, chez la chèvre Angora, ça ne se fait que naturellement. Il y a des essais qui sont faits pour essayer de faire des paillettes pour s'il y a un problème sur la race, qu'on ait un stock de paillettes pour pouvoir pallier à la chute des effectifs de la chèvre Angora. Mais c'est très difficile, ils ne veulent pas se laisser faire les mâles.
D'accord, donc voilà, ils préfèrent les choses naturelles.
Oui.
Bon, peut-être que les petites chèvres aussi, qui sait.
Je pense, vu leur attitude quand elles sont en chaleur.
Bon, et alors du coup, il y a une multiplication des chèvres rapidement. Il y a, alors vous me disiez, une vingtaine de chèvres, un bouc, 20 chèvres. Elles ne font pas toutes des petits toutes en même temps, si ? Tous les ans, elles font toutes
Du coup, c'est le choix de l'éleveur de les mettre à la reproduction ou pas. Nous, cette année, on a fait le choix d'en mettre 5 à la reproduction. En moyenne, en France, elles font 1,1 chevreau chacune. Donc voilà, on a le risque d'avoir des jumeaux, ce qui est un très bon risque. D'ailleurs, on est très content d'avoir des jumeaux. Et nous sommes donc obligés de nous séparer de certaines chèvres. Mais l'avantage de la chèvre Angora, c'est qu'elle produit jusqu'à la fin de sa vie. Donc on n'est pas obligé de les envoyer à l'abattoir. Donc nous, là, nos chèvres sont réformées. Elles partent dans des fermes pédagogiques pour voilà, expliquer aux enfants que la chèvre peut aussi faire de la laine.
Il y a suffisamment de fermes pédagogiques en France pour accueillir toutes ces chèvres Angora ?
Pour le moment, oui. Celles qui sont parties en ferme pédagogique et celles qui sont mortes de leur belle mort. Parce que, voilà, on en a une là qui avait 12 ans, vu que ça a une espérance de vie de 10 ans déjà. Elle a bien vécu.
Alors une mort naturelle, ça veut être deux chèvres, ça veut dire qu'on la retrouve morte et puis c'est tout ?
Oui. Je suis arrivée dans la grange, elle était en train d'agoniser et voilà. Elle a pris une grande respiration et c'était terminé.
Voilà, bon, ben on imagine. Voilà des choses qui sont intéressantes à connaître. Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre.
J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or.
Bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel et nous évoquions l'histoire et de cette réalité des chèvres angora. Alors, on a évoqué les chèvres et on a dit, on les tond. Elles font 30 cm de poils, donc de laine. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toute cette laine? Et là, j'imagine, il y a les poils qui sont là. Vous avez évoqué la longueur qui était indispensable. Alors, parlons un peu de cette laine qui nous arrive, qu'il faut trier, qu'il faut laver, j'imagine.
Oui, alors après la tonte commence le travail fastidieux du tri. Donc le tri, c'est deux choses en fait. C'est d'une part enlever tout ce qui est sale dans la toison, donc notamment tous les éléments végétaux. Et surtout, le tri, c'est aussi trier par finesse. Donc en fonction de l'âge de la bête, le poil n'a pas la même finesse. On compte 5 catégories qui vont du plus fin au plus épais. Et en fonction de la catégorie de la laine, on va ne pas faire les mêmes produits.
Ah, parce que j'avais posé comme question, on ne fait pas la même chose. Alors, voilà. La laine très fine,
voilà.
C'est pour...
En fait, la laine très fine, c'est pour tout ce qui est contre la peau. Donc toutes les pelotes de laine sont faites en mohair de chevreau, les gants, les chaussettes, les écharpes. Et plus on s'épaissit, plus on va s'éloigner de la peau. Donc par exemple, les plaids sont faits avec le poil plus épais, la catégorie 4. En plus, un plaid, comme c'est une grosse pièce, il faut que le poil soit un peu plus épais, sinon ça ne se tient pas.
Et puis alors, il en faut une quantité. Un plaid, c'est grand?
Ah oui, un plaid, c'est
très
grand.
Parce qu'une écharpe, c'est bon, une écharpe ou des chaussettes, c'est relativement limité. Mais là, il faut combien de pelotes de laine? Enfin, c'est fou.
Pour faire un plaid, en fait, il y a une chèvre complète qui passe dans un plaid. Il faut une chèvre, il faut une tonte de chèvre pour faire un plaid.
Ça veut dire que ça produit beaucoup, finalement?
Oui, alors ça produit en moyenne 2 kg par bête et par tonte de mohair brut. Mais en fait, après, avec du coup le tri, le lavage, le cardage, le filage, il y a de la perte. Donc en gros, on récupère 60% de produits finis sur ces 2 kg par bête.
Voilà. J'ai remarqué que là, vous les aviez tondus et qu'on enlevait les petites herbes, les petites mousses, enfin bon. Donc ça, c'est le premier tri. Après, vous classez vous-même.
Voilà, le deuxième tri, c'est nous qui le faisons exclusivement parce que ça demande un peu plus de technique. Nous le classons nous-mêmes, du coup, en 5 catégories, de 1 à 5. Alors, on est aidé par Capgen. En fait, c'est un organisme de sélection génétique. Toutes nos chèvres ont un index génétique parce qu'on essaye de travailler pour avoir le mohair de la plus haute qualité possible, pour qu'il soit le plus fin possible, pour qu'il ne pique pas. Du coup, vraiment, la recherche du mohair, c'est d'avoir la laine la plus douce possible. Donc, Capgen passe une fois par an dans tous les élevages qui cotisent à Capgen et du coup donne des notes aux chèvres qu'on appelle des index. Donc il y a 9 critères différents et notamment la finesse de la laine, l'homogénéité, de savoir qu'ils aient du mohair de la même finesse aux mêmes endroits du corps. Donc voilà, du coup le Capgen passe et nous dit cette chèvre ça va être du 1, cette chèvre c'est du 2. Attention, cette chèvre elle a du 3, 4, 5 sur le corps. Donc c'est ces chèvres là qui nous posent problème. Donc nous dans notre sélection, voilà, on va peut-être pas la faire reproduire. Parce que c'est pas pratique d'avoir une chèvre qui a 3 qualités sur le dos. Pour le tri, après, c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, on cède des indices de Capgen. Et puis après, le reste, ça se fait à l'œil et au toucher. Voilà, quand on hésite, on regarde, on compare avec un autre dont on est sûr de la qualité.
Alors, vous avez trié la laine. Et après, vous ne poursuivez pas toutes les activités de transformation de la laine sur place?
Non, la transformation, nous déléguons tout à la Sycamore, qui se trouve à Castres, dans le sud de la France. En fait, c'est une coopérative. On s'est réunis à plusieurs éleveurs de chèvres angora. C'est eux qui s'occupent de toute la transformation et de gérer avec les façonniers. On leur livre notre mohair brut et c'est eux qui s'occupent du filage, du cardage, de la mise en pelote et de la mise en produit.
Et derrière ça, il y a des grosses machines, enfin tout un travail
voilà,
technique.
Voilà, derrière ça, il y a des grosses machines. Il y a aussi beaucoup de petites mains, parce que notamment, par exemple, toutes nos chaussettes sont reprisées à la main pour éviter de sentir la couture, pour que ce soit plus agréable. Donc, il y a beaucoup de petites mains qui reprisent les chaussettes. Tout ce qui est tissé aussi, tout est contrôlé à la main et repris s'il y a des erreurs dans le tissage machine. Donc oui, effectivement, ça représente beaucoup de machines et beaucoup de petites mains pour arriver à votre paire de chaussettes ou votre paire de gants.
Donc, on transporte ces laines à Castres, j'ai compris.
Oui.
Les laines sont lavées, elles sont
cardées, puis filées.
Comme toutes les laines.
Comme toutes les laines. Oui. Le seul problème, c'est que comme c'est une laine très fine, il faut des machines spéciales qui ne traitent que le mohair, parce que du coup, voilà, c'est beaucoup plus difficile à
filer. Et alors, il y a une centaine d'éleveurs, vous avez dit,
oui,
en France. D'accord. Il y en a dans la région, d'autres ?
Il y en a une autre en Eure-et-Loire, nous sommes deux, mais qui est tout au sud du département.
D'accord. Et vous échangez peut-être le bouc avec eux, non ?
Non,
c'est très loin, au contraire.
Pas avec eux, parce que comme nous sommes dans un pays d'amélioration de notre troupeau, on échange avec des éleveurs qui sont aussi chez Capgen pour être sûr d'avoir un bouc de qualité et qui, du coup, a un bon index génétique.
Voilà, donc il y a tout un travail aussi de recherche génétique. Mmh. Alors, cette laine... Vous avez évoqué tout à l'heure reprise à la main. Là, on utilise la laine pour faire des choses. Et ça, c'est fait où ?
Ça, c'est fait chez des artisans en France. Donc, il y a des choses qui partent à Lyon. Il y en a d'autres qui sont faites à côté de Castres. En fait, chaque usine a sa spécialité. Il y a une partie de la laine qui va dans une usine qui ne fait que les chaussettes, que les gants. Une autre partie qui va dans une usine qui va faire que les produits tissés. Et le reste va dans une autre qui fait tous les produits tricotés, donc les étoles, les écharpes et les plaids.
Alors, j'avais repéré que vous disiez vous-même, on va de l'herbe au pull. Donc, il y a effectivement un certain nombre de stades de transformation qui sont faits à Castres ou dans des usines. Donc, comment vous articulez ? Bien, je veux des paires de gants, des chaussettes, les pointures. C'est fait pour les petits, les grands, les couleurs. Comment ça se passe ?
En fait, du coup, à la coopérative, en fait, on se réunit deux fois par an entre éleveurs. À chaque fois qu'on apporte notre laine, en fait, on livre notre laine à la coopérative. Et on en profite pour se rencontrer en tant qu'éleveur, pour partager nos expériences d'éleveur, mais aussi pour choisir les futurs produits, les futures couleurs. Donc, par exemple, pour les couleurs, il y a une commission couleurs qui est en lien avec des stylistes à Paris pour qu'on ait les couleurs à la mode. Voilà, nous suivons la mode aussi. Donc, voilà. Donc, il y a une commission couleurs qui est chargée de rencontrer le styliste à Paris qui nous donne les tendances. Et après, on fait faire des essais aux façonniers pour voir si la couleur rend bien sur le mohair ou pas. Et après, en tant qu'éleveur, en fait, nous avons une sorte de catalogue avec les couleurs proposées. Et on commande, on veut 10 paires de chaussettes dans cette couleur, 20 paires de gants dans celle-ci. Et c'est nous, après, de faire la commande, d'ajuster par rapport à la clientèle que nous avons chacun, parce qu'on ne vend pas tous les mêmes choses en fonction des régions de France où on se trouve. Donc, on essaye d'ajuster au plus près pour satisfaire un maximum de clients.
Eh bien, nous allons faire une seconde pause musicale avant de savoir tout sur l'élevage des chèvres angora et le mohair.
J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Moi pour toujours, je vois valser les preuves d'amour en or plaqué. Puisque tu me sers très fort, c'est l'amour très.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel. Nous sommes avec Madame Cassaigne qui nous parle de la chèvre angora, mais jusqu'au produit fini. Donc là, nous en étions à la laine et au pullover et aux chaussettes. Alors, parlons un peu de ces produits. Sont bons. On peut acheter aussi des pelotes de laine, parce que là, on évoquait les produits finis, les couvertures ou les plaids ou les pulls et les chaussettes, mais on peut aussi avoir de la laine, j'imagine.
Bien sûr, c'est d'ailleurs notre principal pôle d'activité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de tricoteuses dans la région, et comme il y a de moins en moins de boutiques de laine, elles sont très contentes de nous trouver, surtout pour une laine de cette qualité-là, parce que le mohair français n'est pas disponible que chez les éleveurs de chèvres angora. Vous ne pouvez pas en trouver en boutique autre. Il faut se rendre à la ferme.
Non. Dans les boutiques de laine, il n'y a pas la laine.
Alors, si vous allez dans une boutique de laine traditionnelle, vous allez trouver du mohair, mais du mohair qui vient du Texas ou d'Afrique du Sud et qui, du coup, est beaucoup plus épais que le mohair français et qui va davantage gratter.
Peut-être servir pour les couvertures, du coup.
Voilà. Nous, on s'en sert pour les couvertures, voire pour les chaussons, le mohair que vous trouvez dans les boutiques traditionnelles de laine. Donc voilà, nous avons énormément de tricoteuses qui viennent. Donc nous proposons des pelotes de laine avec un très vaste choix de couleurs. Et nous proposons aussi les fiches tricot qui vont avec pour donner des idées de modèles pour celles qui sont un petit peu à court d'idées.
Donc c'est revenu un peu à la mode là. Il me semble que c'est assez tendance de nouveau de tricoter.
Oui, c'est très tendance et on s'en rend compte parce que nous organisons des ateliers tricot régulièrement à la ferme. Et dans les ateliers tricot, on est descendu au plus bas 8 ans et on va jusqu'à 88 ans. Donc on a vraiment une grande diversité
c'est
dans
pas
nos
comme
ateliers tricot.
C'est à 77,
voilà,
c'est 8 à 88.
C'est 8 à 88. Et ce qui est marrant dans les ateliers tricot, c'est qu'il y a aussi bien les gens qui ne savent absolument pas tricoter et qui viennent pour apprendre, comme il y a des personnes qui savent très bien tricoter et qui viennent juste pour discuter l'après-midi. Et ça permet à chacun d'échanger sur son tricot et de montrer ses dernières réalisations. C'est un moment très sympa.
Donc, il y a toute une convivialité. Vous les accueillez à la ferme?
Voilà, on accueille à la ferme. C'était notre double objectif. On avait envie de produire une matière de qualité. C'est pour ça qu'on a choisi la chèvre angora. Mais on avait aussi envie de créer un lieu vivant, de redonner de la vie dans ce village rural. Et donc, on essaye d'organiser de nombreuses activités à la ferme, donc notamment les ateliers tricot. On fait aussi des goûters couleurs pour proposer aux clients de voter pour les couleurs de la prochaine transformation. On organise aussi des après-midi contes avec des conteuses qui viennent dans la grange pour les enfants, plus nos journées portes ouvertes. Voilà, on essaye de faire que notre ferme soit un lieu vivant où il y a de nouveau de la vie animale, mais aussi de la vie humaine.
Voilà, alors des conteuses qui racontent des choses locales. Comment vous les avez recrutées, les conteuses?
Non, le recrutement n'a pas été très difficile, ce sont des amis.
D'accord.
Voilà, qui comptent. Et donc, on leur a ouvert notre grange, ça fait 2 années consécutives maintenant, parce qu'il y a toujours autant de monde qui vient, les gens sont ravis. Donc, ce ne sont pas des histoires locales, mais la première fois qu'elles sont venues, c'était pour la musette à Lisette, et c'est des petites filles qui montent dans un grenier, elles sont chez leur grand-mère à la ferme, donc ça allait tout à fait dans le cadre avec les chèvres derrière, c'était parfait.
Comment les enfants réagissent par rapport aux animaux? Parce que finalement, souvent dans les écoles, on dit les enfants, ils s'imaginent que le poulet, ils ne connaissent que le poulet vendu sous cellophane dans la grande surface. Donc là, c'est tout à fait un monde différent, enfin.
Alors déjà, la première réaction, remarque que ce soit les enfants ou les adultes, quand ils rentrent dans la grange, ils disent « Oh, ils sont beaux les moutons !» Donc le premier apprentissage,
d'accord,
c'est de leur dire que ce sont des chèvres, bien qu'elles aient de la laine sur le dos. Mais ils sont toujours très heureux de les voir, très heureux de pouvoir les caresser aussi, parce que c'est vrai que notre troupeau est assez sympa, donc ils se laissent caresser par le public. Et ils sont curieux de connaître alors des choses moins techniques que la génétique, mais par exemple de savoir ce qu'elles mangent, comment est-ce que ça fonctionne, les cornadis, le système en métal dans lequel elles mettent la tête pour manger. Voilà, ça intéresse énormément les enfants de découvrir tout ce milieu qui leur est parfois un peu étranger.
Oui, c'est vrai, parce que et puis en plus, on a l'impression, quand on voit des images à la télévision, on a l'impression que c'est quelque chose, un univers très standardisé, alors que là, en fait, non, c'est des chèvres qui sont, entre guillemets, dans la nature.
Ah oui, nous, on a un petit élevage à taille humaine. C'est vrai que nous avons 25 bêtes dans notre troupeau, donc ça reste à taille humaine et c'est très accessible. Et effectivement, la majeure partie de leur temps, en fait, elles sont dans les champs à pâturer.
Ça veut dire quand même qu'il y a tout un travail aussi, parce que le foin, il faut leur donner à manger l'hiver, donc il faut bien le récolter. Enfin, il y a tout un travail de ferme quand même derrière ça.
Oui, alors nous, ce travail de ferme, pareil, nous ne le faisons pas parce que nous n'avons pas de terre pour cultiver la paille, le foin, la luzerne. Donc ça, on fait travailler les agriculteurs du coin, voilà, chez qui on se fournit en luzerne, paille et foin.
Alors, vous avez dit aussi qu'il y a tout un travail qui se fait autour de la sélection génétique. Donc là, racontez-moi un peu en quoi ça consiste.
En fait, la sélection génétique sur la chèvre angora consiste à bien choisir les femelles qu'on va mettre à la reproduction et avec quel mâle.
Oui, pour les laines, là.
Pour les laines. Les laines homogènes. En fait, c'est ça. Par exemple, si on trouve que notre troupeau n'est pas assez fin, que notre mohair est trop épais, on va faire venir un bouc qui, lui, a une laine très, très fine. Et comme ça, petit à petit, avec la succession des chevrons, on va réussir à faire diminuer la finesse de notre laine. Donc voilà, l'année prochaine, au mois d'août, il va falloir qu'on fasse rentrer un nouveau bouc. Donc on est en train de le sélectionner. En fait, il y a des catalogues de boucs.
Ah, il y a des catalogues.
Voilà. Au mois d'août paraît le catalogue des boucs. Et donc, on a leur note génétique en fonction des différentes catégories. Et donc, on va choisir celui qui nous intéresse le plus en fonction des failles de notre élevage. Donc voilà, on va essayer de travailler soit sur la finesse, sur le poids de toison, ou sur l'homogénéité, on choisit en fonction de ce qu'on veut améliorer dans notre élevage pour que la descendance soit encore meilleure que leurs parents.
Bon, et ensuite, dans les chevreaux, j'imagine qu'on ne peut pas choisir si c'est un garçon ou une fille. Donc, il y a aussi...
non, effectivement, on ne choisit
pour
pas.
Pour les petits bouts, parce qu'il
là,
doit y en avoir.
Là, samedi, deux chevreaux sont nés de deux mères différentes. Le premier était une femelle, nous étions ravis. C'est quand même, comme tout éleveur, on préfère avoir des femelles puisque ça fait de la descendance derrière. Le deuxième est un petit mâle. Donc, mais l'avantage de la chèvre angora, c'est que les boucs produisent aussi de la laine. La seule différence, c'est qu'avec la testostérone, la laine est plus épaisse. Donc, aux 6 mois de la bête, en fait, on décide de les castrer ou pas. Si on pense que ça peut être un bon reproducteur, on ne le castre pas. Par contre, si on pense que c'est pas un très bon reproducteur, on va le castrer, ce qui lui permet de garder une laine quasiment aussi fine que les femelles. Donc, on peut les garder dans le troupeau, ça pose aucun problème.
On peut les garder dans le troupeau.
Voilà,
aussi.
Comme ça, même les mâles ne sont pas réformés.
Oui, ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait tous ces jeunes gens?
Voilà, mais c'est pour ça que nous, nos jeunes gens, là, quand même, on a 4 boucs castrés, là, qui viennent de partir dans 2 fermes pédagogiques différentes. C'est les boucs castrés qui partent en ferme pédagogique.
D'accord. Donc, il y a toute une. Comment dirais-je? On fait de la généalogie pour les boucs et pour les chèvres?
Oui, il y a aussi un logiciel qui permet de connaître tous les aïeux des chèvres et des boucs pour éviter la consanguinité. Parce que, du coup, quand on a choisi un bouc, il faut vérifier qu'avec nos femelles, il ne soit pas consanguin. Donc, on a, grâce à un arbre généalogique qui est tenu depuis des années, on sait le taux de consanguinité qu'il y a avec les femelles que nous avons dans nos troupeaux, ce qui nous permet de choisir un bouc qui n'est pas consanguin pour éviter les problèmes
voilà,
dans
et
la
ça,
descendance.
C'est dans toute la France, toute l'Europe.
C'est dans toute la France.
Dans toute la France.
Oui, le catalogue des boucs et de la consanguinité est disponible sur toute la France.
D'accord. Donc, on va peut-être quand même dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vous rencontrer, aller vous voir, visiter, acheter, enfin, se procurer ces... L'élevage est à Torçay.
Oui, l'élevage est à Torçay. Donc, la boutique est ouverte tous les mercredis et samedis matin de 10h à midi. Du coup, soit pour une visite d'élevage, soit pour venir voilà, acheter de la laine. Et nous accueillons aussi des groupes sur rendez-vous en fonction des
disponibilités de chacun. Parce que vous évoquiez tout à l'heure les fermes pédagogiques, mais j'imagine que du coup, il y a des classes maternelles ou des classes d'enfants qui viennent voir les chèvres.
Voilà, ça commence effectivement à arriver, ça intéresse énormément, surtout que dans le coin, il y a peu d'élevage et que nous avons un élevage un petit peu atypique. Donc c'est vrai que ça intéresse du coup les professeurs des écoles pour venir à la ferme.
Eh bien, notre émission s'achève. Je vous dis merci d'être venu nous parler de ce troupeau de chèvres angora. Et puis, ben, je rappelle que c'est donc le mercredi après-midi et le samedi matin que
non,
vous...
Non, mercredi matin aussi.
Ah, pardon. Mercredi matin et samedi matin.
Oui.
Mercredi matin et samedi matin que les uns ou les autres, vous pouvez aller à Torçay, voir à la bouquetière ces jolies chèvres. Et à vous, madame, merci beaucoup d'être venue à Radio Grand Ciel nous parler de ce troupeau et de l'activité d'élevage des chèvres encore.
Merci.
Bonne semaine à tous.